Vous écoutez France Culture.
Sur les docks. Bonjour. Quittant l'éloge du design culinaire hier, nous entamons aujourd'hui une semaine justice. Jeudi, nous retrouverons le coup de crayon et l'œil de Noël Ehrenschmidt. Mercredi, nous reprendrons le fil du procès de l'Erika avec toute l'organisation à laquelle était associé le président Valentin. Aujourd'hui, nous allons vivre une expérience qui défie la raison. Imaginez, un être proche de vous est blessé ou enlevé ou torturé ou tué. Vous avez assisté au procès et du plus profond de votre douleur a surgi un écran tamisant ou exacerbant les propos. Cette femme, cet homme jugé, appartenant pour vous au clan des assassins, vous l'avez à peine regardé. Ou encore, l'horreur vous a empreint de son visage au point que la nuit, il revient sans cesse dans tous vos cauchemars. Bien sûr, il y a eu la sentence, 5, 10, 15, 20, 25 ans de détention pour dire la justice. Et si cela vous laissait un goût étrange? Bien sûr, vous êtes civilisé et avez accepté de déléguer à la société le soin de faire justice plutôt que vous venger, comme vous en avez eu quelque impulsion dans les premiers temps. Il n'empêche que des années plus tard, demeurent en vous des zones d'ombre, des questions insidieuses. Vous voulez instruire votre dossier intime. Aujourd'hui, le dialogue pénal offre en Belgique la possibilité d'entamer un dialogue avec le criminel qui a croisé votre route ou celle d'un de vos proches. Sur les docks vous entraîne donc en Belgique.
Ça, c'était en 96, donc le jour de l'arrestation. Donc,
Vous étiez un peu plus jeune?
Oui, j'avais 27 ans, maintenant j'ai 42. On me reprochait pas mal d'attaques de fourgon, des armes retrouvées. Donc c'était vraiment un petit peu le gros coup de la police judiciaire.
Au départ, j'avais un peu peur de rencontrer directement mes agresseurs. Et je me dis pourquoi pas.
Voilà, on joue lit, hein. Le chef de la bande, qui est François, un habitant de Ytre, a alors introduit son arme par la meurtrière derrière le siège du convoyeur et a tiré grièvement sur la jambe de... Et donc là, on instaure directement le coupable.
Quand je l'ai vu, tout ce que je me suis dit, voilà, c'est celui-là qui a tué mon frère. Je dis, allez, est-ce que j'y vais pas? Je demande à la famille, fais pas ci, fais pas là. Mais je me dis, il faut vraiment que je vais avec ce que moi je veux.
Et j'ai accepté, et je suis allé voir entre quatre yeux, donc sans avocat, sans magistrat.
Ça, c'est le premier article en 2003, où on dit textuellement que je suis l'auteur du coup de feu, qui lui ont arraché sa jambe.
Et là, je peux dire, en gros, quel que soit le psychiatre ou le psychologue, ils ne valent pas une rencontre en direct.
Il fallait vraiment que, même si c'était dur, que je fasse le pas.
Parce que là, on s'est parlé sans tabou.
Et donc, 8 ans après, j'ai quand même fait les démarches. Malgré qu'au début, je ne voulais pas le voir.
Dialogue pénal par Vincent Hautebourg et François Test.
Les titres qu'il faisait en permanence.
Il était l'ennemi public numéro 1.
Il me disait quand j'étais arrêté à Paris.
Et là, on s'est vidé son sac et ça fait un bien fou. C'est incroyable quand on sort d'une médiation comme ça. C'est incroyable la sérénité dans laquelle on se trouve.
Parler à son agresseur, rencontrer sa victime, dans un cadre légal, aménagé, préparé. Dans une dizaine de pays, il existe un service de médiation pénale entre victimes et auteurs d'infractions qui va beaucoup plus loin qu'en France, car il concerne les délits, mais aussi les crimes les plus graves. des parents peuvent dialoguer avec le meurtrier de leur enfant. Un échange secret, un dialogue qui peut aboutir à une rencontre. Avant, pendant ou après le procès, ces échanges s'appuient sur la volonté des deux parties et peuvent courir sur plusieurs années. Ceux qui les vivent disent qu'ils permettent d'apaiser la victime, de réhumaniser l'agresseur et de limiter parfois la récidive. À nos portes en Belgique où nous sommes allés, ces médiations sont autorisées par une loi de 2005. L'association Médiante est à l'origine du projet. En moyenne, 1000 médiations par an, organisées par une vingtaine de médiateurs. Une médiation sur trois aboutit à une rencontre.
Ça, c'est 96, donc vous voyez le nombre d'articles, puis donc ça n'arrête pas. Et ensuite, ça, c'est le procès qui commence, mais j'ai eu deux procès, c'est-à-dire j'ai un procès par contumace, je n'étais pas présent. Et ça, c'est le premier article en 2003.
Il arrive dans la pièce, il est grand, blond, distingué. Il a été braqueur, l'ennemi public numéro 1 en Belgique. En 96, attaque de fourgon blindé, très violente, un des chauffeurs est blessé à la jambe. Il devra être amputé. Le braqueur nie son implication. Le convoyeur le rencontre 13 ans après les faits.
Au départ, il avait fait la demande, mais avant le procès. Et là, je trouvais un petit peu... C'était pas le moment. Bon, le procès devait encore avoir lieu, donc la cour d'assises. Et je me dis en moi-même, non, avant ça, on ne peut pas. On ne peut pas se voir, on ne peut pas... Et alors, j'avais refusé. Une fois que le procès s'est passé... Moi-même, j'ai fait appel à l'SBL Médiante pour dire, voilà, maintenant, le procès a eu lieu, il y a des choses qui sont dites dans les journaux, maintenant je veux voir ce que lui a à me dire, et moi je lui dirai ce que j'ai à lui dire. Et la rencontre s'est faite.
Pourquoi vous avez décidé d'entamer cette démarche de médiation ?
Alors au départ, j'avais une affaire qui était très médiatisée, et donc c'était, pour expliquer le contexte, une attaque de fourgon. Un des convoyeurs avait perdu une jambe lors d'un tir d'armes lourdes. Et je conteste toujours d'ailleurs les faits. Et il y a une surenchère médiatique entre la victime et moi. Donc il faut savoir que j'étais en cavale, donc je répondais par message, par mail ou par lettre. Puis j'étais arrêté, donc il y a eu un procès, etc. J'ai finalement été condamné. Durant le procès, c'était... vraiment très très lourd avec la victime. Il y avait une revendication, donc il y avait un syndicat de convoyeurs qui venait à chaque audience. C'était très très lourd et pas de dialogue possible. Le temps a passé, j'ai été finalement libéré après quelques années. Et là, il y a eu de nouveau ce jeu de médias. C'est-à-dire que là, on a posé la question de savoir, tiens, vous êtes au courant que le braqueur présumé va sortir de prison ? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis là, il y a eu... écoutez, je suis hyper... je vis dans la peur, je vis armé, je suis prêt à défendre ma peau, puisque je pense qu'on va se venger contre moi, etc. Et ça a fait les titres des journaux, donc en disant, si je le vois, je le tue. Or, ni lui ni moi n'avions fait de commentaires, ni d'articles, ni d'interviews.
On se fait attaquer quand les personnes se font arrêter. C'est à cause de nous qui sont en prison. Ils nous ont attaqués, on a déposé plainte, on s'est constitué partie civile. Donc, ils sont condamnés à cause de nous. Donc, on pense toujours, on culpabilise et on pense qu'on a gâché la vie d'autres aussi, même si ce sont des truands. On se dit, leur femme se retrouve toute seule avec les enfants. On se dit, ils vont venir se venger. Que là, en discutant avec eux, on se rend compte que non. C'est pas notre faute qu'ils ont été arrêtés. Et ça, il nous l'explique bien.
Vous aviez cette crainte qu'à sa sortie de prison, il se venge ?
D'ailleurs, je m'étais armé. Oh oui, ça, ce point-là, oui. Oh oui. Et maintenant, je peux le croiser en rue, j'irai lui dire bonjour. Comme lui, je suis sûr qu'il viendra me dire bonjour, et il n'y aura pas de souci. Qu'avant la rencontre, avant la médiation, il y aurait toujours une crainte.
Vous aviez, avant la rencontre, envie de vous venger contre lui ?
Non seulement contre lui, mais contre tous. Contre toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'histoire. Alors bon, j'ai rencontré lui, j'ai rencontré son frère aussi qui était impliqué, qui était en aveu. J'en ai rencontré en fait 4 personnes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était un soulagement en sortant. Ce que aucun psychiatre, aucun psychologue n'a réussi à faire.
C'est pas moi qui ai fait la démarche. C'est la victime qui a contacté Médiante, voir dans quelle mesure on pourrait calmer les choses. Et il y a eu une rencontre prévue, ça a mis pas mal de temps. Avec à chaque fois des rencontres avec les gens de chez Médiante, donc à savoir une psychologue et une assistante sociale, on a préparé le terrain. Donc, c'est-à-dire quelles étaient mes attentes, quelles étaient ses attentes à lui, de quoi on voulait parler, qu'est-ce qu'on voulait évoquer. Et c'est très marrant parce qu'après la deuxième séance, l'attention était déjà retombée de part et d'autre. Et ça a donné tout de suite de l'humanité entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette espèce de deux personnes qui se faisaient la guerre via les médias.
Donc cette démarche de dialogue et de rencontre, c'était pas animé par une volonté de réparation, c'était plus pour clarifier les faits.
Instaurer un dialogue en tout cas.
Antonio Buonatesta, vous êtes coordinateur de l'association Médiante, une association qui met en lien des auteurs et des victimes. Alors, quel est le principe de ces médiations ?
Alors, le principe, comme vous dites, c'est de mettre en lien un auteur et une victime, mais si on en est arrivé là, c'est après avoir fait le constat qu'il y a vraiment, dans la procédure pénale traditionnelle, un déficit de communication entre l'auteur et la victime et qu'il y a toute une série de besoins qui ne sont pas rencontrés par la procédure pénale traditionnelle. Ce principe de créer de liens entre l'auteur et la victime, de permettre un lien entre l'auteur et la victime, s'inscrit dans une philosophie plus générale que couramment appelée justice restauratrice, à laquelle on essaie de donner un sens concret à cette justice réparatrice et efficace, à savoir la perspective de bien mieux prendre en compte le préjudice subi par la victime et les capacités de l'auteur d'y répondre. Et l'autre aspect fondamental de cette approche est de rendre aux parties la possibilité de gérer elles-mêmes certains aspects de des conséquences du délit. Alors pour certaines victimes, ça peut être simplement une indemnisation. Pour d'autres, ça peut être la volonté de comprendre. Et quand on dit la volonté de comprendre, on comprend derrière ça que c'est applicable à un grand type, un nombre de faits. Un cambriolage, on peut avoir envie de comprendre quelle est la personne cagoulée qui est entrée dans ma maison, de savoir quelles étaient ses intentions, est-ce qu'elle va recommencer, et pour un meurtre, c'est la même chose. Il est clair que ce n'est pas la victime directe qui est impliquée dans la médiation, mais bien des parents de victimes qui viennent avec ses attentes. L'idée n'est pas de remplacer ce à quoi la procédure pénale peut répondre. Il est évident qu'un procès est important pour une victime, mais on remarque que ce procès ne répond pas toujours à ses attentes, à ses questionnements fondamentaux auxquels la victime se rend compte que finalement seul l'auteur peut répondre.
Avant cette rencontre, qu'est-ce que vous attendiez ?
Au départ, une vérité. Une vérité. Je voulais savoir ce qui m'était arrivé, pourquoi on m'avait tiré dessus, pourquoi j'ai perdu ma jambe.
On a eu une première rencontre qui s'est faite dans ce commissariat. Et au bout de 10 minutes... on était presque... On avait oublié complètement qui on était. Et on était deux êtres humains face à face et on discutait vraiment très librement. Et il n'y avait plus du tout une animosité. Et là, on a pu vraiment discuter pendant, je pense, 2 ou 3 heures de tout. Des questions précises sur le dossier. On a refait le procès. Et On a regretté tous les deux de ne pas avoir pu faire ça justement pendant le procès, parce que ça aurait pu aider pas mal de choses et répondre à pas mal de questions qu'il avait, et moins inversement, puisque dans un procès d'assises, c'est assez procédurier. Vous ne pouvez pas vous adresser à la victime directement, ou inversement, lui ne peut pas s'adresser à moi et me poser des questions. Et puis il y a une espèce de pression générale qui ne permet pas de rentrer dans le détail ou d'avoir une discussion à bâton rompu. Et donc là, il venait avec des éléments. Et moi, je pouvais les contrer, je me disais, mais non, tiens, tel élément et tel élément, c'est pas possible, parce que voilà.
En fait, bon, il m'a quelque part, il m'a quand même fait douter. Il m'a expliqué quelques petits détails dont je lui ai promis que je ne dirais rien. Mais il a semé un doute dans mon esprit.
Vous doutez de sa culpabilité ?
Maintenant, oui. À mon avis, mais ça, bon, c'est personnel, c'est comme on dit, il y a eu des lits de sale gueule.
Au revoir, Gouvier. Et la bête est calme, hein ?
Lui a compris que vous n'étiez pas son agresseur alors que vous avez été jugé coupable ?
Oui, bah c'est ça qui est assez particulier, parce qu'à la fin de l'entretien, la question évidemment qu'on s'est posée, je lui dis bon, maintenant, je peux pas te le prouver, mais voilà, j'ai rien à gagner puisque je suis condamné. Je te dis, c'est pas moi, je t'ai pas tiré dessus. Maintenant, le gros problème, c'est que je faisais partie du grand banditisme, donc je pouvais pas lui raconter ce que je savais, mais je pouvais quand même lui prouver que l'enquête avait été mal faite. Et qu'il n'avait pas eu réponse à cette question, et que là, il pouvait me poser les questions qu'il voulait. Alors quand je ne pouvais pas répondre, je disais, écoute, ça, je ne peux pas te répondre, parce que, voilà, je garde une certaine éthique face à mon ancienne activité, donc j'ai fait partie du grand banditisme, il y a des codes, des règles. La grosse difficulté, après, c'est se défaire, se dire, bah, ça, je l'ai fait, ça, je ne l'ai pas fait, et on ne peut pas le prouver, parce que si je veux le prouver, je suis obligé de me mettre à table, et se mettre à table, ça ne fait pas partie de mes principes. C'est lui qui m'a tiré dessus. Donc là, je lui disais, je peux pas te répondre. Pose-lui la question. Est-ce que tu connais les auteurs ? Et là, je tournais autour du pot, je répondais ni oui ni non. Je disais peut-être, mais j'ai pas de certitude, j'y étais pas. Il faut savoir, dans le grand banditisme, on partage souvent les mêmes caches et on peut se prêter ou se prêter des hommes sur une opération, parfois aussi, pas des armes, mais des munitions. Donc par exemple, j'ai besoin de munitions pour une Kalachnikov, j'en dispose, je vais en donner à une autre équipe, ils font un coup, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu, et ils déchargent leur arme, ce qui veut dire qu'en déchangeant l'arme, la glissière va faire qu'il y a une marque, une strie sur chaque douille. Et par la suite, si on retrouve les douilles qui avaient été vidées dans le chargeur, forcément on va penser que j'ai tapé avec eux. Et c'est un peu ça la difficulté, comment me défendre ? Je peux pas leur raconter, bah, vous savez, j'ai prêté un sac avec des balles pour une équipe B, sinon je vais expliquer qui est B, donc je suis un peu coincé.
On parle du tout et de rien, même, pour finir. Hein. On parle du beau temps. Ah non, c'est vraiment très agréable. Hein. C'est très difficile à expliquer. J'ai plus rencontré un suspect, un tel numéro. Non. J'ai rencontré un homme.
C'est une rencontre humaine. Dans un tribunal, vous n'avez pas cette possibilité-là. Évidemment, c'est encadré, puisqu'il y a des psychologues qui sont là. On respecte un cadre. Déjà, le respect de l'autre, la parole de l'autre. On le laisse parler, s'exprimer. Dans ce cas-ci, il n'y avait pas ni de colère, ni de violence, c'était...
Mais quand on sort de là, je me répète, mais on est très serein. Alors la douille, on la passe bien après.
Le rendre le conflit aux parties est un des principes fondateurs de la justice restauratrice et nous tentons de lui donner une concrétisation la plus efficace possible, tout en restant réaliste. On ne prétend pas résoudre, prendre en compte l'ensemble du préjudice subi par la victime par la médiation. La procédure reste un élément important dans la gestion de la criminalité et de la gestion du préjudice des victimes. Mais c'est un complément fort utile et c'est ce qui fait sa faisabilité et sa force dans le dispositif belge, c'est qu'on rend une partie du conflit aux parties.
Christophe Dubois, vous êtes sociologue et vous avez travaillé sur ces médiations pénales. En Belgique, ces médiations, elles sont implantées depuis longtemps, depuis une dizaine d'années.
Ces médiations réparatrices en détention, elles ont lieu effectivement en Belgique depuis une quinzaine d'années, depuis 1996. Alors au-delà de l'histoire de la Belgique, il y a l'histoire de la justice et surtout, on pourrait, en simplifiant très très fort, dégager deux grands modèles de justice, un modèle pénal rétributif classique qui se structure autour de la punition de l'auteur d'une infraction, quelle qu'elle soit, et puis un modèle réhabilitatif qui s'est développé à partir des années 60 et 70, où on a misé beaucoup plus sur la réinsertion, la réhabilitation du détenu. Et donc c'est autour de cette réhabilitation que l'action de la justice s'est construite et s'est développée de plus en plus. Face à ces deux modèles classiques, un troisième modèle, une troisième voie a commencé à se structurer à partir des années 70 aux États-Unis et au Canada, donc en Amérique du Nord essentiellement. Et on y voit une expérience fondatrice en 74 dans l'Ontario où un travailleur social permet la rencontre entre l'auteur et sa victime pour rétablir la communication qu'on considère comme étant rompue avec l'infraction, avec une vision du conflit qui n'est plus un acte qui appelle une punition, un acte qui entraîne toute une action orientée vers la réhabilitation, mais un acte qui brise la communication entre trois parties, l'auteur, la victime, et alors, comme on est en Amérique du Nord, avec des communautés très denses encore, surtout des communautés religieuses, on considère donc que le conflit provoque une rupture dans la communication tripartite, auteur, victime et communauté. Et c'est cette relation qu'il faut restaurer. Depuis les expériences fondatrices en 1974 et puis les modèles qui circulent dans les années 80, on peut considérer qu'ils arrivent à l'université de Leuven en Belgique à la fin des années 80, début des années 90.
Nous sommes tous des assassins.
De Madame Dominguez. Oui, et de l'administration générale.
Aux États-Unis ou au Canada, les médiations sont biaisées. On ne rencontre pas son agresseur ou sa victime, mais des personnes impliquées dans d'autres affaires, voilà, similaires aux nôtres. En Belgique, en revanche, la rencontre est frontale.
Vous ne devez pas avoir de détenu.
Si. C'est pour une interview dans le détenu.
Il va falloir passer dans le détecteur quand même.
Je pose ma tête là-dedans. Hein.
Celui que nous rencontrons en prison a tué un homme qu'il considérait comme son fils. Ils travaillaient ensemble dans un restaurant. Dans un climat de tension, et vraisemblablement sous l'influence de drogue, il l'abat d'un coup de carabine. Le meurtrier est condamné à perpétuité et incarcéré à la prison d'Arlon, dans le sud de la Wallonie. La sœur de la victime a demandé à le rencontrer. C'était il y a 4 mois.
C'est une salle qui ne sert plus actuellement.
Ouais, elle est comme elle est.
Donc, je sais pas si ça ira. Oui. C'est juste l'interview. Donc,
oui. Bon.
Vous, vous avez décidé d'entrer dans cette démarche de médiation et donc de rencontrer l'assassin de votre frère.
Oui.
Pourquoi?
Ben, pour déjà aussi avoir un petit peu les réponses qu'on attend depuis déjà longtemps et qu'on n'a pas eues via le procès. Quoi, hein. Pourquoi il a tué mon frère? Est-ce que ça valait la peine aussi de tuer quelqu'un? Et surtout pourquoi? C'est surtout pourquoi il a tué, quoi. La réponse. Le pourquoi.
Et au procès, il n'avait pas expliqué pourquoi?
Rien du tout, non. Pas du tout, pas du tout. Disons que c'était déjà un procès un peu difficile chez nous. Déjà, nous autres, on avait très dur à être là devant tout ce monde. Et puis, les questions qu'on voulait, on ne les a pas entendues, puisque, bon, en plus, l'auteur n'a pas su s'exprimer non plus. Hein. Pas une seule fois, quoi.
Et cette réponse, elle vous manquait pour faire le deuil?
Oui, oui, beaucoup. Oui, oui, il me fallait le savoir pourquoi, parce que sinon, tu ne sais pas tourner la page. Hein. Et là, tu es avec tes idées, tu dis comment il a fait, est-ce qu'il a souffert Enfin, tu imagines de tout à ce moment-là.
Est-ce que pour vous, ça a été difficile de prendre cette décision, de demander à rencontrer l'assassin de votre frère?
Oui, très difficile. Ouais. Pour mon frère, c'est surtout pour mon frère que je me dis, allez, je vais aller le rencontrer. Est-ce que mon frère va m'en vouloir? C'est plutôt ça que j'avais eu très dur, quoi, d'aller le voir. Quoi. Que mon frère, de là-haut, bon, il m'en veuille, quoi. Je lui ai demandé pardon, quoi, si je vais le voir. Quoi.
À votre frère?
Oui. Et j'espère que de là-haut, il va me pardonner, quoi. Qu'il m'en voudra pas, quoi. Que j'étais face à celui qui lui a ôté la vie. Quoi. Mais je ne crois pas qu'il m'en voudra. Ça a été très difficile de le voir en personne, quoi. Parce que, bon, t'as tes idées aussi, hein. Bon, toi, tu l'imagines, quand tu le connais pas, que c'était un monstre, que c'était un psychopathe, t'imagines de tout.
Comment ça s'est passé? Vous lui avez d'abord écrit?
J'ai posé certaines questions, ils ont été le voir. Lui, il a répondu à certaines questions. Ils ont demandé s'ils pouvaient me voir. Et puis de là, on a pris rendez-vous. Et alors, je me suis rendue à la prison, carrément, quoi.
Je suis désolé, ça ne rentre pas.
Cette rencontre, moi, cela m'angoissait beaucoup. Parce que je ne savais pas quelle allait être la réaction de cette personne à ma vue, ne fût-ce qu'à ma vue. Mais en fait... Tout avait été très bien préparé, tant du point de vue psychologique chez cette dame que chez moi, et aussi du point de vue matériel, ce qui est quand même assez important, c'est-à-dire que la direction de la prison avait arrangé cette rencontre en dehors du carcéral. C'est-à-dire que cette personne n'a pas dû subir les petits amusements que vous avez subis. Nous sommes allés dans une maison attenante, où il y avait une pièce confortable avec différentes sortes de poissons, des biscuits, enfin bref, pour me sortir de l'ambiance carcérale et pour ne pas l'y faire rentrer. Donc ces deux faits ont eu pour résultat que la réunion a commencé dans de très bonnes conditions. Puis il s'est très vite avéré que cette personne, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, s'était fait, je dirais, un cinéma d'horreur. Quand est-ce qu'il était arrivé à son frère? Or, elle avait assisté au procès, elle s'était portée partie civile, elle avait un avocat, donc elle connaissait les tenants et les aboutissants. Et malgré tout, elle a vécu pendant 8-9 ans avec des images horribles, tant de la fin de son frère que de ma personne.
Je vais être avec madame, moi.
Très stressant, enfin angoissant, et mais j'étais contente. Hein. J'étais vraiment pressée d'aller le voir. Quoi.
Vous vous étiez préparée pour cette rencontre?
Oui, oui, oui. J'étais vraiment préparée avec la médiante. Hein. La médiante. Donc on a fait tout un travail pendant quelques mois, et voilà.
Alors vous êtes allée dans la prison?
Donc on est rentré et tout. On nous a bien installés. On nous a voilà, mis à la place où on se sentait mieux. Et puis de là, on l'a fait rentrer. Et je l'ai vu devant moi, quoi. Alors mon cœur, il a vraiment palpité. Et puis il s'est assis, mais ça s'est vraiment très bien passé. Enfin, j'étais soulagée, oui, soulagée de le voir. Malgré que j'avais quand même un peu d'hésitation et de peur, quoi.
Qu'est-ce que vous lui avez demandé ?
Comment il a tué mon frère ? Pourquoi il a tué mon frère ? Et est-ce qu'il a souffert, mon frère ? Je lui ai posé aussi toutes des questions qu'on s'imaginait aussi avant le meurtre, quoi. Est-ce que vous l'avez tué pour de l'argent ? Est-ce que vous avez tué pour si ? Toutes les réponses qu'on attendait, quoi, qui n'a pas été posée au procès, et il m'a répondu franchement le plus naturel possible, voilà, ça et ça. Il m'a répondu à tout ce que je voulais, quoi.
Ça a duré combien de temps ?
2 heures, quand même, ça a été très vite, hein, pourtant. Enfin, 2 heures, ça s'est passé, mais pour moi, c'est comme si ça avait été une demi-heure, quoi. Donc c'est comme si tu n'en avais pas assez, quoi. Parce que c'est un truc vraiment qui te... Allez, t'as plein de questions, mais ça va très vite, quoi.
Est-ce que lui, il vous a posé des questions pendant cette rencontre ?
Non, rien du tout. Si, peut-être une chose, oui. Il m'a demandé comment je pensais que mon frère, il l'avait tué.
Vous lui avez dit quoi ?
Donc, il était monté en haut, qu'il avait pris le fusil, qu'il avait pris mon frère à joue, c'est ça qu'on dit, hein. À joue, et qu'il lui avait fait signer un papier, que sûrement que mon frère avait dit non, je te signerai pas, et que lui, il a sûrement tiré une balle dans le ventre. Puis je voyais déjà mon frère qui allait dans la pièce où il avait le bureau, puisque là, apparemment, on avait vu des taches de sang avec le produit que la police scientifique avait fait sortir. Et que là, on avait vu des mains, que mon frère sûrement a dit « ne me tue pas » en se mettant à genoux, qu'il avait pleuré de ne pas le tuer, et que lui, bon, il l'avait tué de plusieurs balles, puis une balle dans la tête, puis qu'il l'avait mis dans la baignoire, qu'il avait découpé mon frère, et qu'il avait mis ça dans des sacs, et qu'il a été transporté le corps de mon frère pas tout seul, et qu'il avait jeté mon frère là où on l'a retrouvé, et qu'il avait même pris une hache. Tu vois, l'hache pour découper mon frère, quoi. Et alors, lui, il a dit, mais enfin, madame, comment vous pouvez penser ça ? Je dis, oui, mais comme vous avez travaillé comme un ancien colonial, je me dis, ça ne vous aurait pas gêné de prendre une hachette pour le découper, quoi. Et lui, il m'a dit, mais madame, comment vous pouvez penser ça ?
Et donc, lui, il vous a expliqué ce qu'il
oui.
a fait ?
Oui. Oui, parce qu'il m'a dit, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé, et moi, de toute façon, j'étais prête à entendre tout ce qu'il me disait. Et il m'a dit, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Tout bêtement. C'était tout simple. Tellement que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Que j'ai imaginé autant de choses pour si peu de choses, quoi.
Est-ce qu'il y a des mots en particulier qui vous ont marqué ?
Enfin, oui, des paroles, bon, par exemple, je demandais comment ça se fait, comment il était mon frère. Ben, il a dit des paroles que je ne connaissais pas mon frère non plus, tu vois. Ton frère n'était plus lui-même. Oui, c'est vrai que c'est dur à entendre, parce que moi, je connaissais mon frère, comment il était naturellement. Et comme lui me le décrivait, je ne reconnaissais pas mon frère, quoi. Ça, c'était dur quand même à accepter, quoi. Ouais.
Est-ce que dans votre cellule, avant cette rencontre, vous avez longtemps réfléchi aux mots que vous alliez utiliser ?
Ah oui, j'ai... aux mots peut-être pas, mais aux concepts que j'allais développer. Oui, j'ai préparé ça très longuement. D'ailleurs, les 2 dernières nuits, j'ai quasiment pas dormi. Paradoxalement, j'ai été condamné alors qu'il n'y a pas eu d'explication à mon geste. Pour des raisons qui sont propres à la nature du procès. Et donc là, j'ai pu lui expliquer certaines choses sur son frère, et j'ai été très surpris que, par ailleurs, il connaissait ces choses, pas toujours très positives, et que donc, quand je suis arrivé à l'explication finale de mon geste, bon, je ne peux pas parler, je ne peux pas dire qu'elle a compris, mais en tout cas, c'était moins révoltant que lors du début de la rencontre.
Au-delà de l'explication du geste, du meurtre, est-ce qu'il y a des choses que vous avez, vous, voulu lui dire aussi ?
Oui, j'ai voulu un peu lui expliquer, lui parler un peu de moi, lui dire que jusqu'à 62 ans, je n'avais jamais eu la moindre condamnation, la moindre contravention, et que subitement, à 62 ans, j'explosais en tuant son frère. Il y avait là donc une raison, pas une raison, des raisons qui devaient lui être expliquées, ce que j'ai essayé de lui faire. Et apparemment, bon, disons que ça a diminué sa haine envers moi.
Est-ce que vous aviez aussi envie de demander son pardon ? Est-ce que ça faisait partie de la démarche aussi ?
Oui, d'autant plus que je n'avais pas eu la possibilité de présenter mes excuses lors du procès, pour des raisons, encore une fois, attenantes à l'affaire. Et là, c'était un point important dans mon esprit, c'était de lui présenter mes excuses. Ce fut d'ailleurs le début de la rencontre, le moment le plus pénible pour moi, parce que je devais ressortir toutes les émotions que j'avais éprouvées lors du fait, lorsque je l'ai tué.
Et ça s'est exprimé comment ?
Difficilement, mais quand même. Bon, ce furent 10 minutes, disons, assez angoissantes pour moi, parce que je voulais m'exprimer sincèrement, et que je ne savais pas quelle allait être sa réaction.
Est-ce que vous l'avez touché ?
Ouais. Oui, lui, oui. Oui, parce qu'il a eu très dur, elle a pleuré, hein, mais moi, je ne voulais pas le regarder quand il pleurait. Mais on voyait vraiment qu'il était, en pleurant, que ça lui serrait, quoi, tu vois. Ça, c'était très dur pour lui aussi. Mais moi, je n'ai pas voulu le regarder quand il pleurait, parce que ce n'est pas mon but, hein, d'aller là pour ça, enfin. Je voulais pas avoir un grain de pitié, parce que bon, je suis quand même quelqu'un de bien. Enfin, même s'il a tué mon frère, bon, il faut quand même rester un petit peu. Faut pas avoir la haine, quoi. Et c'est vrai que je me suis abaissé les yeux. Et puis quand il a arrêté, je l'ai regardé. Mais là, je l'ai vraiment regardé dans les yeux jusqu'à la fin. Alors que moi, je pensais pas que j'aurais été capable de le faire. Hein. Mais j'avais besoin de lui parler comme je vous parle, quoi. Et ça m'a fait du bien. Hein. C'est comme si j'attendais ça depuis longtemps, quoi.
Ouais. Bon, nous étions convenus de ne pas vous donner la main, mais je suis persuadé qu'en fin de séance, si j'avais tendu la main, elle ne l'aurait pas refusée. Parce qu'elle a compris également pourquoi j'avais tué son frère. Parce que ça ne lui était pas apparu au procès.
Quitté, après cette rencontre, vous vous êtes serré la main, ça s'est passé comment ?
Ah, c'est très particulier, c'est de sa part à lui, il m'a dit, moi je m'appelle, il m'a donné son prénom, et il m'a dit, on se tutoie, et il m'a serré la main en me disant, on peut boire un verre ensemble, très particulier, comme deux potes. Et alors ce qui est très particulier aussi, et ça on a pu en discuter aussi, il y a un syndrome après. En fait, lui-même, je pense, avait été surmédiatisé pendant 10-15 ans. Et après le procès, les médias sont détournés de lui du jour au lendemain. Et je pense qu'il l'a mal vécu. Et inconsciemment, il y a... il me l'a dit quand même. Une espèce d'attachement à moi. C'est-à-dire que je faisais partie de sa vie. Le fait de me rencontrer, ça le permettait de perdurer ça. En fait, on était prêt à s'échanger le numéro de téléphone, etc. Il m'a dit, si on se croise un jour dans la rue, on boit un verre. Il me l'a dit clairement, il m'a dit, je ne sais pas si tu es coupable, en tout cas, si tu as été condamné et que tu es innocent, je m'en voudrais toute ma vie. Et je lui ai dit non, parce que j'ai un parcours criminel, et j'ai tiré sur un policier, donc ça englobe le fait que... Donc ça, je ne voulais certainement pas lui faire porter ce fardeau-là en lui disant, c'est de ta faute. Si j'ai... Ça, je pense qu'il a bien perçu aussi. Et en même temps, les questions les petits doutes qui lui restaient, j'ai pu les effacer, je pense.
On le voit avant la rencontre comme un criminel, comme un dangereux gangster, comme on nous l'a écrit, c'est un très grand truand, c'était l'ennemi public numéro 1. Mais après la rencontre, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, c'est un homme qui a une compagne, qui a un enfant, ben, qui est comme nous, quoi. Et on se demande, c'est vrai, après tout, pourquoi est-ce qu'il aurait commis ça ? C'est une personne qui est très agréable à parler, qui est très gentille, très polie, très correcte, que avant la rencontre, on nous le décrit comme une personne très dangereuse, très méchante, faites très attention, parce qu'il est, comme s'il était toujours armé, quoi. Donc le moindre truc, il devient fou, il pète une casse, alors que pas du tout. Excusez-moi l'expression, mais merde, quoi. Ben, après tout, c'est des gens comme nous.
Comment vous êtes quitté ? Comment vous avez quitté l'endroit où vous vous êtes rencontré ?
Ben, déjà, on s'est serré la main, je crois, 3 fois. Et on s'est promis de boire un verre le jour qu'on se rencontrerait. Oh non, non, vraiment, vraiment, très bien. Très bien. Mais c'est une sensation, c'est indescriptible. Hein. C'est une sensation très agréable.
Hein. Vous dites que c'est agréable, c'est un mot que vous utilisez souvent. Alors que vous avez été une victime, que oui. L'attaque était très violente, que vous avez dû être amputé, donc oui. Vous avez traversé des moments difficiles.
Oui. Ben ça, bon, c'est un travail qu'on fait sur soi-même de toute façon. Hein. L'amputation, c'est... Je ne reviens jamais en arrière, en fait. J'ai une jambe en moins, ben, je vais de l'avant. Je n'avais jamais fait de moto avant. J'ai acheté la moto après être amputé. C'est un défi. Et je me lance toujours des défis. Et je remarque que, bon, je vis comme tout le monde. Je travaille. Pas plus tard que mois de mai, je me suis lancé le défi avec une jambe artificielle de partir en moto avec ma femme, mes bagages, sur la moto à Saint-Tropez. Et j'ai réussi le défi.
Christophe Dubois, est-ce que ces rencontres auteurs-victimes ont des conséquences sur la récidive en Belgique ?
Alors, ça c'est très très difficile à établir, ce lien de cause à effet. On peut dénombrer à peu près 600 rencontres auteurs-victimes chaque année en Belgique. On peut estimer que la plupart des auteurs qui sont partie prenante d'un tel processus ne le sont pas tous dans une démarche uniquement instrumentaliste ou opportuniste de remise de peine ou d'amélioration de leur dossier personnel. Il est évident que, et comme vous avez certainement pu le voir dans la rencontre de cet auteur et de cette victime, qu'il y a une expérience humaine très forte, très intense qui se joue et qu'on n'en ressort pas indemne. En tout cas, on ne ressort pas d'indemne de la rupture de communication que le conflit occasionne, mais on ne ressort pas indemne non plus d'une démarche qui aujourd'hui est... capitalise cette quinzaine d'années d'expérience et donc les professionnels qui encadrent ces rencontres ont un certain savoir-faire, une certaine expertise pour aussi jouer le jeu mais en minimisant les risques de victimisation secondaire ou d'utilisation uniquement intéressée, instrumentale par les détenus.
Cette rencontre, ça a permis de tourner la page ?
Tout à fait. Tout à fait. Et pas seulement la page, mais carrément fermer le livre. Je n'y pense plus. Je n'y pense plus, je pars vraiment de l'avant.
Est-ce que vous comprenez que ça peut être surprenant, étonnant pour certains, d'entendre votre discours ?
Oui. Pour certaines personnes, oui, ça peut être étonnant, surprenant, mais je leur conseille de le faire. De rencontrer, s'ils ont un conflit avec quelqu'un, s'ils ont été victimes, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas et faites une médiation parce que c'est très important psychologiquement, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Depuis lors, je n'ai plus un médicament, plus rien, plus un somnifère, plus rien.
Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette rencontre ?
Ah bah depuis lors, il n'y a plus d'articles violents, il n'y a plus cette surenchère. Ça m'a permis de, je pense, tourner la page aussi et de pouvoir m'adresser à lui directement. Parce qu'il faut savoir, je lui avais écrit en prison également. quand j'avais été arrêté, je lui avais écrit une lettre et qu'il a pris comme une menace. Et là, je pense que oui, j'ai pu vraiment mettre clôturer le et dire ce que j'avais à dire, en tout cas, sans qu'il le prenne pour une menace et qu'on puisse se parler. Je ramène ça à l'humain, donc on était redevenus des humains.
Comment vous l'avez quitté de cette pièce dans la prison ?
Ben, je lui ai dit au revoir, et tout, c'est ce qui est bizarre, c'est que même moi je me suis dit, allez, je l'ai remercié pour avoir accepté ma rencontre, enfin, que je vienne. Pourtant, on va me dire, bon, il n'y avait pas à remercier celui qui a tué ton frère, la moindre des choses c'est qu'il peut te faire ça, mais à qui que tu ne pardonneras jamais. Mais je l' ai quand même remercié parce que je suis quand même, il aurait pu me laisser comme ça, hein, avec mes questions et tout. Donc dans un sens, il m'a un petit peu aidé aussi. Il m'a permis d'avancer, de plus penser, de reprendre un peu ma vie en main, quoi. Et surtout pour mes enfants aussi. Un travail comme ça, c'est bien que ça existe. Au moins, tu vas où tu as besoin d'aller, quoi. Et tu as tes questions. Donc la médiation, c'est vrai que c'est très important pour moi. Pour la suite de la vie, quoi. Au moins, maintenant, je peux retourner certaines pages. Pas tous, hein, parce que ça, c'est pas possible. Hein. On ne sera pas tout retourner les pages. Hein. Mais certaines pages, je peux les retourner et au moins, j'ai un truc qui est enlevé, quoi. On dirait que je suis plus légère. Maintenant, je peux avancer. Et lui, il fait son chemin. Et moi, je peux faire le mien. Voilà.
Donc, la rencontre n'a fait que apporter du positif. Je l'ai dégagé de toutes ces angoisses. Et moi, ça a été véritablement une catharsis. Je suis sorti de là comme s'il y avait eu une explosion en moi. Et je me suis senti, pas libéré, mais dégagé d'un tas de choses. On pourrait appeler ça des miasmes, résultant encore du procès et de l'acte que j'avais commis. Pendant, je dirais, quasiment 2 jours, comme on dit vulgairement, j'étais en lévitation, quoi. Je l'ai dit à toutes les personnes ici dans la prison auxquelles je parlais. Je me sentais comme libéré, comme ayant accompli, voilà ce que je disais, ayant accompli la seule chose bénéfique et importante depuis 8 ou 9 ans que je suis en prison. Et ça c'est quand même quelque chose de très gratifiant.
Et est-ce que cette rencontre, ce lien qui a été établi avec la sœur de votre victime, donne du sens à votre peine ?
Non. Moi, je suis en parfait accord avec la peine que j'ai reçue. Donc j'ai tué, donc il est normal que je sois condamné. Et ensuite, le restant, c'est entre moi et moi. Le jour où je serai libéré, mes remords ne vont pas cesser. Ça n'a rien à voir avec la peine. C'est quelque chose qui est en moi. Et voilà. Je dirais que le lien le plus puissant, c'est évidemment le frère qui est mort, que j'aimais beaucoup, que j'aimais comme un fils, et que lui me présentait d'ailleurs comme son père. Ça, c'est un lien évidemment assez fort.
Est-ce que maintenant vous voyez différemment l'assassin de votre frère ?
Je ne le pardonnerai pas, hein. Ça, c'est d'office, hein, mais je le vois différemment, plus. Hein, qui a fait un pas de travers et que toute sa vie va le payer. Enfin, moralement, je parle. Hein. Et je sais que sur un certain qui va en souffrir, c'est pas le but qu'il souffre, mais je le vois différemment, pas comme je le voyais avant.
Et est-ce que vous pouvez envisager sa sortie à lui de prison et peut-être le rencontrer un jour ?
Peut-être. Peut-être qu'il aura des choses à dire qu'il n'aurait pas dit là. Hein. Et ouais, je serais prête à le revoir, ça ouais.
Du coup, vous avez un lien avec l'agresseur.
On dirait. C'est comme si j'avais un lien avec mon frère via lui. Parce que moi, je sais très bien que je connais très bien mon frère, donc je sais qu'il était fort attaché aussi à lui, à son meurtrier. Mais c'est comme si que À travers lui, je peux encore avoir mon frère avec moi. Ben, les derniers moments de sa vie, c'est avec lui. Hein. Voilà. Donc le lien, il est là. Hein. Pourtant, on n'aimerait pas l'avoir, mais pour moi, c'est comme ça.
Christophe Dubois, la Belgique, avec ses rencontres victimes-auteurs, est déjà habituée à ce système de médiation pénale. En France, on accuse un certain retard par rapport à la Belgique. Pourquoi, à votre avis ?
En fonction de ce que je connais et de mon expérience, moi je soulignerai essentiellement deux facteurs. Premièrement, la perméabilité beaucoup plus forte de la Belgique à la littérature anglo-saxonne, essentiellement parce qu'au nord, on a déjà des chercheurs flamands qui lisent et qui publient essentiellement en anglais, alors qu'au sud, on reste plus dans un modèle typique de celui de la France, à savoir qu'on reste encore assez peu perméable à ces théories anglo-saxonnes, qui reposent aussi sur des idéologies, sur des visions du monde assez différentes des nôtres, à savoir que notamment elles sont plus normatives, et alors que les chercheurs français, qu'ils soient sociologues ou criminologues, restent en général plus descriptifs ou critiques, mais moins normatifs. Et deuxièmement, la présence de criminologues en Belgique, qui sont des conseillers du PRAS quelque part, qui sont en tout cas des conseillers du politique, qui ont ce rôle de conseil, constitue une discipline institutionnalisée, qui a pignon sur rue, qui enseigne la criminologie comme savoir, comme science, et qui diplôme chaque année un nombre assez important de criminologues, alors qu'en France, on a une bataille qui est beaucoup moins évidente, beaucoup moins claire pour l'institutionnalisation de la criminologie en tant que telle, à savoir comme discipline enseignée dans une faculté, délivrant des diplômes, intitulée criminologue à toutes sortes d'étudiants. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore gagné la bataille de l'institutionnalisation de la criminologie en France.
En France, on tarde à réunir agresseurs et victimes. Une forte culture de la sanction peu encline à la justice réparatrice. Il y a tout de même quelques expériences embryonnaires. La création de l'Association nationale de justice réparatrice, il y a tout juste un an, et au printemps 2010, pour la première fois, des rencontres à la centrale de Poissy entre victimes et auteurs de délits.
Au revoir, merci.
C'était Dialogue pénal. Merci à Antonio Bonatesta, de l'association Médiante, à Christophe Dubois, sociologue, et aux participants qui nous ont confié leur expérience. Dialogue pénal, un documentaire de Vinciane Audebourg et François Test pour Sur les Docs.
Puisque je dois mourir avec le jour avant la nuit, et puisqu'il me faut partir, dans un murmure je dois te dire ce lourd fardeau que je t'avais depuis si longtemps caché. Sa teneur en est amère devant les mots s'enfuient. Puis mes idées s'en vont, s'en viennent, à leur retour plus fatiguées. Est-ce une éclipse ou mes paupières? J'ai cru mon heure arriver. Et ma mémoire semble s'éteindre, se rallumer par inadvertance. Un dernier feu d'artifice en guise de salut. Mais il est tard. Regarde, le jour s'endort, j'attends. et les secondes s'en vont danser. Autant du peu qu'il me restait, moi qui les ai parfois trouvés. Si longue à mon impatience, je m'étais tant laissé aller. De cette erreur lui dois-je la cause, mais il est temps que je te dise. Quoi déjà? Mais il est tard. Regarde, le jour s'endort. J'attends.
Merci pour cette écoute que vous pouvez prolonger sur le site de Sur les Docs via franceculture.fr. Demain, justice toujours, et nous vous proposons de revisiter le procès de l'Erika. Il est l'heure de Contrepointe, la chronique d'Alain-Gérard Slama, avant le journal de la rédaction de France Culture.